Aujourd'hui, l'éléphant et le hérisson. Il était une fois les animaux de la brousse. Ils vivaient entre eux, seuls sur la terre. Non, pas tout à fait. Il y avait aussi dans la brousse les génies, les géants et les nains, qui, eux aussi, vivaient entre eux. Quant aux hommes et aux femmes, il et elle n'avaient pas encore fait leur apparition sur la terre. À cette époque-là, lointaine, très lointaine, il n'y avait sur toute surface de la terre qu'un seul cours d'eau, une petite rivière aux eaux salées qui appartenait au petit hérisson. Un génie nain, un Vauclonie, avait eu la gentillesse de la lui montrer.
C'est pour toi. Si quelqu'un y boit sans ta permission, la rivière disparaîtra. Si tu refuses à qui que ce soit la permission d'y boire, la rivière disparaîtra pareillement.
De nature, le petit hérisson n'est pas méchant, malgré ses piquants qui lui en donnent l'air. Il suffisait donc de le lui demander gentiment. Petit hérisson, je meurs de soif. Est-ce que je peux aller boire dans ta rivière? Il répondait toujours par oui. Et tu pouvais te désaltérer à satiété. Mais un jour, l'éléphant, piqué par on ne sait quelle mouche, se leva et déclara.
Moi, le plus grand de tous les animaux, le plus puissant, le plus fort, que je sois obligé à chaque fois de demander la permission à ce petit rien de hérisson, est-ce inacceptable? Je ne le ferai donc plus. Désormais, je boirai sans sa permission.
Le petit hérisson n'était pas présent. Mais les autres animaux, qui attendaient son arrivée, dirent à l'éléphant:
Ne fais pas ça, éléphant. Il ne te coûte rien de demander la permission au petit hérisson. Il n'a jamais refusé de l'eau à personne.
Mais l'éléphant ne les écouta pas. Il se leva et alla boire l'eau de la rivière. Mais à peine eut-il commencé à boire que la rivière se retira. Et l'éléphant partit en barrissant. Quelques instants après, arriva le petit hérisson, qui trouva que sa petite rivière aux eaux salées était à sec. Il se dressa sur ses petites pattes et demanda:
Qui a bu toute l'eau de ma petite rivière?
C'est l'éléphant! C'est l'éléphant!
Répondirent en chœur les autres animaux.
On le lui avait pourtant déconseillé!
Oh, les vilains rapporteurs! Mais le petit hérisson, très content d'avoir ses rapporteurs, se dressa sur ses petites pattes et chanta de sa voix courroucée:
Ma petite rivière à moi, l'éléphant l'a vidée. Si jamais je vois l'éléphant, si jamais, jamais je rencontre l'éléphant, je me battrai avec lui et je lui ferai rendre ma rivière. Parole de hérisson.
Ce disant, le petit hérisson partit à la recherche de l'éléphant. Il trottinait tout seul dans la brousse. De temps en temps, il se redressait sur ses petites pattes ou montait sur un arbre pour chercher l'éléphant des yeux. Il était vraiment en colère, très en colère. Mais est-ce qu'un petit rien de hérisson peut vaincre le grand éléphant?
Si, si, je le vaincrai.
Avait répondu le petit hérisson aux animaux qui l'avaient mis en garde. Le petit hérisson marcha ainsi pendant longtemps. Ce fut vers le petit soir qu'il vit l'éléphant. Le gros pachyderme avait fini d'engloutir des tonnes et des tonnes de nourriture et se reposait aux rayons couchants du soleil. Il dormait. Le petit hérisson se dirigea droit sur lui. Il lui donna un coup de patte, puis un autre, et un autre encore. Uppercut, direct, droit, gauche. L'éléphant se réveilla.
C'est toi, toi qui as bu toute l'eau de ma petite rivière à moi, hein?
demanda le petit hérisson en colère.
Oui, c'est moi, c'est bien moi. Et qui veux-tu ?
Bougonna l'éléphant.
Me battre avec toi.
Éclata de rire l'éléphant.
Te battre avec moi ? Est-ce que tu n'es pas devenu fou ?
En réponse, le petit hérisson se mit à frapper l'éléphant avec ses petits poings. Et l'éléphant se fâcha. Il se leva. Il leva sa trompe et frappa à son tour le petit hérisson. Mais c'était ce qu'il ne fallait pas faire. Le petit hérisson enfonça tous ses piquants dans la trompe de l'éléphant. « Pique, pique que je te pique !» qui hurla de douleur et appela tous les animaux au secours. Ceux-ci vinrent supplier le petit hérisson d'enlever ses piquants de la trompe de l'éléphant. Le petit hérisson, malgré ses piquants, n'est pas méchant, vous l'avez dit. Il accepta volontiers de soigner l'éléphant. Et c'est depuis ce jour-là que l'éléphant, malgré sa force, ne s'attaque jamais au plus petit que lui.
Ma petite rivière à moi, l'éléphant l'a vidée.
C'est un hérisson qui piquait et qui voulait qu'on le caresse, reste, reste. On le caressait pas, papa, papa. Non, pas parce qu'il piquait pas, mais parce qu'il piquait.
C'est un hérisson qui piquait et qui voulait qu'on le caresse, reste, reste. On le caressait pas, papa, papa. Non, pas parce qu'il piquait pas, mais parce qu'il piquait.
Oh, qu'est-ce qui pique ce hérisson? Oh, quelle est triste sa chanson!
Quelle est la fée dans ce livre qui me donnera l'envie de vivre? Quelle est la petite fille aux yeux bleus qui va me rendre heureux?
Quelle est la fée dans ce livre qui me donnera l'envie de vivre? Quelle est la petite fille aux yeux bleus?
Radio, on est là, sur 107.7 ou sur lasphero.net. On est tous des petits hérissons face aux gros éléphants.
Et on se pique de le savoir. Aujourd'hui, on est lundi de Pâques. Oui, c'est le retour des cloches. Ce soir, vous en aurez une belle à 8h. Et sinon, on est toujours là, sur 107.7. Le téléphone, c'est le 07 54 10 72 59. Vous pouvez aussi nous laisser des messages sur Radio On Est Là, riseup.net.
Il y a aussi un blog où vous pouvez retrouver notamment tous les contes qui ont été enregistrés pour peut-être endormir les enfants le soir sur le blog radioonestla.noblog.org. Et au programme de cet après-midi, comme d'habitude, des brèves quotidiennes. Et après, on vous fera écouter une lettre d'une aide-soignante en EHPAD qui a écrit à sa directrice. Un peu de musique avant les brèves. Et maintenant, les brèves quotidiennes.
Hôpital. Le directeur des ressources humaines de l'hôpital d'Arpajon a affiché sur les murs de l'hôpital une note se concluant ainsi. Une contagion des agents de l'administration aura pour conséquence un arrêt des achats d'équipements et de la paye de l'ensemble des agents de l'hôpital. Le personnel des ressources humaines de l'hôpital aurait donc peur d'être contaminé par les soignants en première ligne. La révolte n'a pas tardé à gronder, le DRH a fait marche arrière en parlant de maladresse.
Le service central du renseignement craint l'embrasement à la sortie du confinement, évoquant notamment la multiplication des appels à prendre la rue et le fait que le pouvoir en place soit tenu pour responsable.
En Loire-Atlantique, 17 personnes ont été placées en garde à vue pour non-respect des règles du confinement, c'est-à-dire qu'elles ont été verbalisées 4 fois. La répression est en marche.
Laurent Berger découvre le syndicalisme et trouve indécent le fait de demander de travailler plus aux Français. La suite à la prochaine trahison post-confinement.
À la montagne, comme au bord de mer, les propriétaires de maisons secondaires ont afflué pendant ce week-end de Pâques. Le confinement n'est définitivement pas le même pour tout le monde.
Depuis le début du confinement, 45% des déferlements concernent les violences conjugales. L'état d'urgence sanitaire révèle toujours plus les rapports de domination qui structurent la société.
Soucieuse de perpétuer la vieille tradition française de la délation, la mère de Montgeron, dans l'Essonne, Sylvie Carillon, encourage les habitants via un document affiché dans les halls d'immeubles de deux quartiers populaires à dénoncer à la police, en appelant le 17, celles et ceux qui ne respectent pas le confinement. Pour rappel quand même, si on est confiné, c'est juste parce que en haut, nos dirigeants, ils n'ont pas commandé ni masques ni tests.
Si plusieurs libérations ont eu lieu, le centre de rétention administrative de Lyon compte encore une trentaine de détenus dans ses murs. Des personnes arrivent tous les jours. Un détenu témoigne des conditions indignes qui y règnent. On vit pareil comme dans les années 1800. L'hygiène est catastrophique, on n'a même pas un shampoing. Les jugements continuent par visioconférence, avec à la clé une libération ou une condamnation à un enfermement de 28 jours. Régularisation de tous les sans-papiers et libération des détenus.
À Paris aussi, c'est la merde dans les centres de rétention. C'est pourquoi un collectif propose de tous les jours, à 11h, envoyer un mail aux préfectures qui ont le pouvoir de lever la rétention des personnes dites sans papier. Dans le corps du mail, vous pouvez juste écrire une phrase, par exemple « des papiers pour tous » ou « plus papier du tout » ou encore « libérer nos camarades ». Je vous donne les adresses mail. pref-éloignement@seine-saint-denis.gouv.fr ou alors pref-éloignement@valdemarne.gouv.fr ou encore pref-éloignement@haut-de-seine.gouv.fr et enfin préf-astreinte-éloignement@seine-et-marne.gouv.fr.
Et ça doit pouvoir se faire aussi dans nos régions. Suite au décès d'un homme lors d'une interpellation, un rassemblement a été appelé ce samedi à Anderlecht, dans la banlieue bruxelloise. Les forces de l'ordre l'ayant réprimé sous prétexte de confinement, des affrontements avec la police ont eu lieu. Un canon à eau et un hélico ont été mobilisés et 45 personnes ont été arrêtées.
Alors que les flics utilisent le respect des mesures de confinement pour justifier le harcèlement qu'ils font subir à la population, notamment dans certains quartiers, les violences policières semblent gravement augmenter. Depuis le décès survenu à Béziers, 3 crimes policiers ont eu lieu en quelques jours. Cela en fait donc 4 en moins d'une semaine. Ainsi, à Angoulême, dans la nuit de jeudi à vendredi, un homme de 28 ans, poursuivi par la BAC, est mort après s'être jeté dans un fleuve. La même nuit, un automobiliste est décédé alors qu'il fuyait également un contrôle. L'autre passager est dans un état critique. À Bruxelles, vendredi, un autre homme, père de 3 enfants, est décédé suite à une interpellation. Les flics ont reconnu s'être assis sur lui lors du trajet vers le commissariat.
Les supermarchés Carrefour, Casino, Franprix ou Monop ont noué des partenariats avec Uber Eats et Deliveroo afin que leurs livreurs prennent en charge leur livraison de courses. Le directeur général d'Uber Eats en France reconnaît sans scrupule profiter de l'épidémie pour accélérer un processus qu'il avait en vue depuis longtemps. Entre guillemets, on regardait depuis longtemps le secteur de la livraison des courses à domicile. Ce qui s'est passé dans les dernières semaines nous a permis d'accélérer le mouvement. Nous avons vu une opportunité business et le bon moment pour lancer le service.
Parmi les profiteurs, il faut quand même citer aussi les Carrefour et compagnie dont les prix ont doublé en l'espace de quelques jours. Voilà. Je reprends. Suite au mouvement de blocage lancé hier soir au centre de rétention du Ménil-Amelot, une charge de police a eu lieu vers 11h. Le dispositif policier est énorme, une centaine de flics. Ils ont rassemblé les détenus dans un coin, les ont forcés à se mettre par terre et ont confisqué leurs téléphones. Ils ont menotté et emmené, sûrement en garde à vue, 7 prisonniers, identifiés comme leaders sur les caméras. Les autres prisonniers ont été enfermés dans leur chambre.
Maintenant, on va vous proposer un peu de musique avant la lecture d'une lettre d'une aide-soignante en EHPAD à sa directrice. Musique.
Don't leave me this way. confinés parlent aux confinés. Radio, on est là.
Tammy. On lui a dit, il faut maintenir les services. Madame la directrice de l'EHPAD est une femme de tête. Pense à la suite de sa carrière. Madame la directrice de l'EHPAD doit gérer le flux aujourd'hui comme hier. Le flux varie qualitativement. Aujourd'hui, c'est une file active de mort. On lui a dit, il y a des sacrifices à faire. Madame la directrice de l'EHPAD a le sens du sacrifice. Depuis son bureau de l'aile administrative où sont réfugiés tous les cadres de santé, elle l'insuffle à ceux qui en manquent, hors de l'aile administrative. Les contaminations brouillent la vue. L'aile administrative préserve le cadre. C'est l'essentiel. Les variables s'ajusteront. Les hôtesses d'accueil ne servaient plus à rien. Elle les a envoyées tenir la laverie, nettoyer le linge, souillé par le Covid, nettoyer les draps des morts. Elle est le chef d'orchestre d'un ajustement de tous les instants. Madame la directrice de l'EHPAD assure la continuité de ses plans de carrière. Grâce à sa fermeté, les hôtesses d'accueil assignées au nettoyage du virus s'agencent harmonieusement, au plan de résistance au virus. Nous sommes en guerre et tous les efforts sont nécessaires. En guerre, il faut préserver les stratèges, du brouillage de vision. Madame la directrice de l'EHPAD et les cadres de santé sont les stratèges garants de la sortie par le haut. Ils gardent la tête froide, à l'abri du virus. Ils savent, beaucoup mourront. Il faut voir la réalité en face. Être vieux, c'est accepter qu'on va bientôt mourir. Être soignant, c'est savoir qu'on peut mourir pour le bien commun. Être cadre, c'est savoir et assurer la continuité des plans. Le bien commun dépend de la fluidité des marchés. Son rôle de directrice, c'est d'insuffler du courage à ceux qui en manquent depuis son bureau. Le courage ne lui manque pas. Madame la directrice de l'EHPAD a le cœur qui bat en pensant à la détermination dont elle fait preuve. Elle méritera sa promotion à l'Agence régionale de santé. Madame la directrice de l'EHPAD harcèle les soignants pour qu'ils restent en poste, physiquement. Les vieilles gens meurent, 5-6 chaque jour. Elle dit aux soignants, prenez sur vous. Nous avons tous notre rôle à jouer. Madame la directrice de l'EHPAD compte les morts. Elle garde la tête froide, elle a ressorti sans boulier, ça l'aide à se figurer les quantités. Pour son bilan de carrière, les soignants de l'EHPAD ont décidé de consacrer les feuilles à l'annonce des morts que leur mémoire survive au boulier. Une feuille par personne, sur un panneau en liège. Le deuxième jour, il a fallu partager les feuilles en quatre. Trop petit le panneau en liège. Et puis, pas assez de feuilles. Le sixième jour, ils sont passés aux listes. Au moins garder des noms. Madame la directrice de l'EHPAD est une dame de fer. Elle torture psychiquement les soignants pour leur insuffler le courage qu'ils n'ont pas. Elle a ce courage de les martyriser pour le bien commun. Elle leur fait comprendre qu'ils sont responsables de l'abandon des vieilles gens à une mort dans l'indignité. Ils sont coupables, oui, de craindre pour leur vie à eux, en soignant des vieilles gens contaminés, sans masque et sans gants. Elle leur dit « Vous vous devez à nos seniors. Il faut savoir mettre sa vie en jeu pour l'humain. Les seniors meurent parce que le gouvernement a perfectionné l'hôpital, dans l'intérêt des marchés garants des meilleures sociétés. L'hôpital est une imperfection qui ralentit les flux. » Les marchés, c'est le cadre qui garantit les flux, de nature variable. Le gouvernement a fait entrer l'harmonie économique dans le service de santé. C'est une entreprise de longue haleine. Il faut du souffle et de la vision. Les soignants en manquent. Le psychologue est là aussi pour ça, lui explique Madame la directrice, pour l'étayage. Mais le psychologue se soustrait à la dignité collective. Il consulte en télétravail puisqu'il n'a ni gants ni masque. Madame la directrice de l'EHPAD exige que le psychologue en poste retrouve sa dignité. Vienne, en personne. Le contact humain, c'est important pour aider les soignants à prendre sur eux et continuer à mourir en participant à l'effort de dignité collective. Les vieilles gens, qu'on laisse mourir, méritent des soins. Elle est garante de la dignité. Plus les vieilles gens meurent, plus les soignants attrapent le virus et meurent. Plus il y a des morts, plus la directrice de l'EHPAD harcèle le psychologue. Le télétravail est parfaitement inacceptable. Il faut qu'ils meurent, au contact de la dignité. C'est un effort collectif. Le zéro stock et le flux tendu font leurs preuves jour après jour. Hubert.
Radio On est là sur 107.7 ou sur lasfero.net, c'est le stream Cuvante. On vous rappelle aussi qu'à partir de 18h30 tous les jours, il y a la radio 39.9, c'est une question de température, sur le même stream lasfero.net, et c'est suivi sur le même stream à 20h par les amis les pangolins. Et on rappelle que vous pouvez nous appeler en direct tout cet après-midi au 07 54 10 72 59. Vous pouvez aussi nous envoyer des documentaires sonores, des cartes postales, tout ce qu'on recevait beaucoup il y a quelques jours, au moins ces temps-ci. Donc pour nous envoyer tout ça, c'est le mail radioonestla@riseup.net. Et pour continuer l'après-midi, on va vous proposer un peu de musique, donc n'hésitez pas à nous appeler, et sinon, bonne écoute musicale, à tout à l'heure.